This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Women of the Seas. Récit d'aventure en mer, portrait de femme au destin incroyable.
Quand l'astrolabe quitte la base pour la dernière fois après sa dernière rotation, on entre dans la saison qu'on appelle l'hivernage. Donc là, on entre dans une période qui dure 8 mois pendant laquelle il n'y aura plus de rotation maritime. Là, la base entre en phase d'hivernage en autonomie. En gros, on est là pour, ça dépend si tu arrives au début de la campagne et si tu pars à la fin de la suivante, 12, 13, 14 mois en fonction de quand tu arrives et quand tu repars.
Charlène Jiquel, 36 ans, officière de marine marchande. Embarquée sur la base scientifique française de Dumont-d'Urville en Terre Adélie.
J'ai pensé à faire plusieurs choses, la biologie ou l'océanographie, aussi plus sérieusement la construction navale. Et puis finalement, j'ai entendu parler de la marine marchande, un peu sur le tard. Et je me suis dit, bingo, c'est ça que je veux faire. Voilà, il y a plein de choses qui me plaisaient dans cette profession, le côté technique, le voyage, le rythme un peu décalé, le fait d'avoir des périodes d'embarquement en alternant avec des périodes de congé. Sachant qu'il n'y avait pas de marin dans ma famille, donc je voyais vraiment que la partie connue de la profession, ce dont on nous parle quand on se renseigne un peu, qui est en fait une infime partie de ce qui est possible dans le monde maritime, mais ça, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Et j'ai intégré l'école de la marine marchande, qu'on appelle l'Hydro dans le jargon. Moi, j'ai suivi le cursus des officiers de première classe. On suivait d'abord une formation théorique de 3 années. Et pendant ces 3 années, on alternait les cours théoriques avec des périodes de navigation en tant qu'élève officier. Donc la particularité de ce cursus, c'est une spécialité un peu franco-française, c'est que c'est un cursus polyvalent. C'est-à-dire qu'on est formé aussi bien à la navigation qu'à la partie technique, donc la machine. Alors avec cette formation, on peut finalement être aussi bien officier au pont, c'est-à-dire tout ce qui concerne la conduite du navire, la gestion commerciale, l'exploitation commerciale du navire, les opérations commerciales, etc. Et la partie technique, donc travailler au département machine, gestion de la propulsion et de tous les auxiliaires techniques du navire. Quand je suis sortie de l'école, il se trouve que pendant mes premières années à l'Hydro, j'ai rencontré un bateau qui m'a un peu vrillé le cerveau et j'ai décidé que je voulais naviguer sur ce bateau coûte que coûte. Du coup, en fin de troisième année, quand il s'agissait de trouver un nouvel embarquement d'élèves après l'examen, j'étais moyennement enthousiaste à l'idée de retourner sur un cargo. Par une succession de hasards, j'ai atterri à l'association du Père Jaouen. Je suis arrivée là-bas pour 3 mois, j'y suis restée 13 mois et ça a été le début d'un parcours pas planifié, quoi. Imprévu. Et je suis allée de surprise en surprise et puis je me suis assez vite éloignée de la marine marchande conventionnelle, traditionnelle, on va dire. C'est quand même pas la norme de se destiner à un parcours plus aventuriers, plus précaires. Les gens qui intègrent l'hydro, en général, ne poursuivent pas ce genre de projet, quoi, enfin, d'ambition. Alors moi, quand j'ai quitté l'association du Père Jaouen, du coup, j'avais ripé pour de bon et j'étais de moins en moins convaincue par ce que la marine marchande traditionnelle avait à offrir. Et du coup, j'avais envie de rebondir sur un autre embarquement un peu hors norme, quoi, un peu enthousiasmant et excitant. Et du coup, j'avais entendu parler de l'Astrolabe, ce navire qui dessert la base du Mont d'Urville. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait génial si je pouvais trouver un embarquement d'élèves sur ce bateau. Du coup, j'ai contacté l'IPEV parce que je savais que c'était le principal affréteur du navire. L'IPEV, c'est l'Institut polaire Paul-Émile Victor, du nom de l'explorateur, l'explorateur français qui avait lui-même créé les expéditions polaires françaises, les EPF, dans les années 40. Et donc, c'est un institut polaire national français dont la vocation est de développer la recherche scientifique nationale, donc française, en Antarctique et en Arctique, dans les régions polaires et subpolaires. L'Antarctique, c'est l'extrême sud de notre petite planète. Donc, c'est un continent, à contrario de l'Arctique, qui est un océan. Et donc, l'Antarctique, c'est l'énorme continent qui est centré autour du pôle sud. Donc, du coup, l'IPEV, pour moi, je vois ça comme ça, opère un peu des bases comme un armateur opérerait des navires. Donc, ils assurent l'existence de ces bases, l'armement humain de ces bases et le déploiement de moyens techniques et scientifiques sur ces bases. La France est présente à travers l'IPEV en Antarctique sur les bases Dumont d'Urville et Concordia, Concordia étant une base franco-italienne, dans les îles subantarctiques sur l'archipel des Kerguelen. Et l'IPEV est aussi présent en Arctique sur l'archipel du Svalbard. Et en même temps, l'IPEV opère aussi avec deux navires, donc l'Astrolabe, qui dessert la base du Mont d'Urville, et le Marion Dufresne, qui dessert les bases subantarctiques. Et je ne connaissais pas l'identité de la compagnie qui était propriétaire du bateau et qui l'armait. Donc, j'ai appelé l'IPEV pour avoir cette information-là. Et voilà, donc je lui explique, je suis élève marine marchande, je cherche à entrer en contact avec la compagnie qui arme l'Astrolabe, est-ce que vous pouvez me renseigner? Il me renseigne, et puis au passage, il me dit, mais quel est votre profil? Tiens, vous savez que vous avez tout à fait le profil pour le poste de second mécanicien dieseliste sur la base du Mont d'Urville. C'est un contrat de volontaire, on recherche des profils comme le vôtre, etc. Du coup, ça a germé un petit peu dans ma tête. Je me suis rapprochée de la compagnie qui armait l'Astrolabe pour embarquer chez eux. Ils ne prenaient pas d'élèves officiers. Et là, je me suis dit, bon, bah, à défaut, je peux peut-être recontacter l'IPEV et voir un peu comment ça se passe, de quel poste il s'agit. Donc, du coup, j'ai posé ma candidature en me disant ça n'engage à rien. De toute façon, c'est assez sélectif. Donc, il y a peu de chances que je sois prise, mais je peux démarrer le process de recrutement, on verra bien jusqu'où j'irai, quoi. J'ai participé à un premier entretien avec les RH et un représentant du service technique des infrastructures polaires. Et puis, on nous fait passer très, très vite des entretiens psychologiques pour savoir si on a le profil psy, s'il n'y a pas de contre-indication majeure à un hivernage. Après, il y avait une batterie de tests médicaux pour voir si on n'avait pas de contre-indication médicale à un départ en hivernage. Et en fait, j'ai quand même compris que j'avais un peu bénéficié d'une discrimination positive. Avant cet hivernage-là, il n'y avait jamais eu de femmes sur des postes techniques à Dumont d'Urville en hivernage. Déjà, les femmes n'hivernaient pas depuis très longtemps. Ça avait moins de 10 ans. Et jusqu'à maintenant, quand elles étaient présentes sur des postes scientifiques. Mais dans l'équipe technique, c'était encore jamais arrivé. Et je sais qu'il y avait un peu une volonté des RH de mixifier l'équipe technique. Et donc, moi, je remplissais un peu toutes les cases, quoi. J'avais le profil hydro qui leur plaît vraiment bien. Et en plus, j'étais une nana. Et cette année-là, ils étaient motivés à faire rentrer les nanas. Et puis, une fois que j'ai eu la réponse, je dis, bon, on y va alors. On rentre dans le délire de préparatif. On nous envoie 15 000 documents. Ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Pour les bagages, c'est ça, on nous explique qu'on on a la possibilité de faire partir plusieurs mois avant notre propre départ des affaires personnelles dans des cantines en acier, déposer ses cantines à l'IPEV et puis ça part en bateau longtemps après nous pour que ce soit sur place avant notre arrivée. Donc ça, c'est rigolo, on commence à réfléchir à ce qu'on veut emmener, on part un an, qu'est-ce qui va nous manquer, qu'est-ce qui ne va pas nous manquer. Et puis, ce qui est assez sympa aussi, c'est qu'avant le départ, l'IPEV organise un séminaire des futurs hivernants sur le site de l'IPEV à Plouzané, à côté de Brest. Et donc, on apprend plein de choses. Et puis surtout, on rencontre nos futurs co-hivernants, quoi. Les gens avec qui on va passer un an. Là-dedans, tu as tes futurs super potes, tes futurs collègues de boulot, tes futurs tout, quoi, ta future famille pour un an.
En 1947, j'ai créé les expéditions polaires françaises.
Paul-Émy Victor.
Et suivant le plan que j'ai proposé, le gouvernement m'a donc chargé de la mission d'organiser la recherche scientifique française dans l'Arctique et dans l'Antarctique. 1947-1987, il y a 40 ans de cela. Ces 40 années, au cours desquelles j'étais moi-même le responsable et le chef d'expédition pour la plupart des expéditions sur le terrain, au cours de cette longue période, nous avons mis sur pied une quarantaine d'expéditions dans l'Antarctique.
Moi, mon départ était prévu sur R2, ce qu'on appelle R2, c'est-à-dire la troisième rotation de l'Astrolabe sur Dumont-Durville pendant l'été austral. Je suis partie en avion via Paris pour Hobart. Hobart qui se trouve au sud de la Tasmanie étant ce territoire australien, au sud du mainland australien. Donc de Hobart, on tire une ligne à peu près quasiment plein sud vers l'Antarctique et on arrive à Dumont-Durville. En gros, c'est le port civilisé le plus proche de Dumont-Durville et c'est au départ d'Hobart que se fait toute la logistique maritime vers Dumont-Durville. Donc, arrivé à Hobart, on embarque sur un navire qui s'appelle l'Astrolabe. Donc, l'Astrolabe sur lequel moi j'ai embarqué n'est plus l'Astrolabe qui opère aujourd'hui. C'est un nouveau navire, mais il porte toujours le même nom. Et donc, j'ai embarqué sur l'ancien Astrolabe. Donc, du coup, sur cette rotation, il y avait plein de scientifiques. Donc, moi, c'était mes premiers contacts avec le monde scientifique. Et c'est génial parce que tu rencontres plein de gens hyper enthousiastes. Et puis, moi, j'étais hyper contente d'être sur un navire marchand. Je me disais, oh là, c'est un peu mes dernières naves avant longtemps. Et donc j'ai beaucoup profité, surtout les approches dans les glaces et tout. Je me souviens qu'il y a eu du mauvais temps et cet astrolabe-là, je ne sais pas comment on se comporte de nouveau, mais l'ancien, on le surnommait le gastrolabe. C'est un navire qui a la réputation d'être un peu rude à la mer, quoi, et il faut avoir le cœur bien accroché. Donc effectivement, très vite, beaucoup de malades. J'étais souvent seule au carré des passagers à prendre mes repas seule parce que peu de gens étaient capables de se nourrir. Mais c'était rigolo. Puis aussi pendant ces longues journées en mer où tu es un peu désœuvré parce que toi, tu n'as pas de job, tu es vraiment juste un passager qui prend le bateau pour aller à Dumont-Durville. Donc, on a du temps pour commencer à se rencontrer aussi avec les hivernants qui prennent la même rotation. Donc ça, c'était rigolo. Et on est arrivé, je me souviens très très bien de la date, à Dumont-Durville le 6 janvier 2009. Voilà, et là, premier contact avec les glaçons, l'archipel, l'île des pétrels, la base du Dumont-Durville, la piste du Lion où le bateau s'amarre, le débarquement en hélico. Et cette journée, elle est restée totalement gravée dans ma mémoire, notamment parce que voilà, d'un instant à l'autre, on découvre l'environnement dans lequel on va évoluer pendant un an et dont on ne va pas pouvoir s'échapper aussi. Voilà, c'est ta nouvelle vie, quoi. Ta nouvelle maison, ton nouveau job, tout. Et aussi, ce jour-là, c'était assez puissant parce qu'il y avait des orques sur la base. Et donc c'est complètement fou, quoi. Tu débarques, tu arrives sur la base, tu poses ton sac, tu serres des mains à plein de gens. Et puis là, on entend dans les haut-parleurs de la base « Des orques !» Des orques en bas de la base, machin, descendez, venez voir les orques. Et tu descends sur un petit bout de banquise, et là, il y a les orques qui plongent sous la banquise, il y a des manchots partout, des phoques qui se prélassent au soleil, et tu te dis, waouh, on est où? On est là, et c'est ma nouvelle maison pour un an. C'est complètement dingue, ce que m'a. Quand je suis arrivée sur la base, du coup, j'ai rencontré la personne que j'allais remplacer. Et puis, je découvre petit à petit la centrale, les installations, mon futur poste, etc. Et puis, ben, on se met au taf. Donc, moi, typiquement, mon job, c'est second mécanicien dieseliste à la centrale de Toulon-Deauville. On est deux. Il y a un chef mécanicien qui, lui, est contractuel et le second qui est volontaire civil. Ensuite, il y a toute une équipe technique beaucoup plus étoffée avec un plombier, un électricien. Cette année-là, il y avait une menuisière. Il y a un mécanicien de précision, donc tourneur-fraiseur. Il y a un mécanicien engin qui est dédié au parc des engins, tracteurs, dameuses, etc. Voilà, donc je rencontre tout ce petit monde. Et puis donc moi, mon job, c'est d'assister le chef de la centrale. Et donc, dans nos compétences, enfin, dans notre charge de travail, on doit faire tourner cette centrale. C'est-à-dire que la centrale assure la production d'électricité pour la base, ainsi que la production d'eau douce. Et puis après, on gère tous les auxiliaires nécessaires à ces deux fonctions principales. Il y a trois groupes électrogènes principaux, sachant que en hiver, un groupe suffit à étaler la consommation de la base. En été, deux groupes. Et en plus de ces trois groupes principaux dans le bâtiment principal de la centrale, on a un groupe de secours dans un bâtiment indépendant. Ce qui fait que si on perdait le bâtiment principal, on a quand même un groupe qui est toujours disponible. Donc, on a quatre groupes et je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, on avait un groupe neuf sur palette dans un hangar. Donc, si vraiment on avait un gros, gros, gros problème, on pouvait toujours... déplacer sur ce groupe neuf et le mettre en place. Dans cette centrale, il y a donc les trois groupes électrogènes, le bouilleur avec lequel on fabrique l'eau douce en faisant bouillir l'eau de mer. Ça, c'est les installations principales. On trouve aussi un système de cogénération. Le système de cogénération, c'est en gros un principe de récupération d'énergie des gaz d'échappement des groupes électrogènes pour faire chauffer de l'eau. Et cette eau, du coup, elle est préchauffée avant d'aller au bouilleur. Donc, ouais, c'est de la cogénération, c'est de la récupération d'énergie pour limiter les dépenses énergétiques pour faire chauffer l'eau du bouilleur. En fait, tout est lié. Ce qui est assez critique dans ces centrales, contrairement aux navires, il n'y a pas la partie de propulsion. Mais par contre, si la chaîne de production d'énergie est rompue, comme tous les systèmes sont interconnectés, on est vite dans une situation critique. C'est-à-dire qu'en produisant de l'énergie, on produit de la chaleur qui nous permet de pomper de l'eau de mer en se préservant du gel. Et avec cette eau de mer, on va fabriquer de l'eau douce. L'eau douce qui est nécessaire à notre survie et qui est aussi nécessaire à la réfrigération des groupes électrogènes, à la production d'eau douce, etc. Enfin, voilà, donc tout est interconnecté. Si on perd le pompage d'eau de mer, on perd la réfrigération des groupes électrogènes, donc on perd la production d'électricité. Et à l'inverse, si on perd la production d'électricité, on perd notre source en calories qui permet de se préserver du gel sur le pompage d'eau de mer et donc d'assurer la production d'eau douce. Tout est lié en fait, il fonctionne. Et puis, aux abords directs de la centrale, on a aussi le dépôt mensuel de carburant. Donc, ce sont plein de petites cuves de carburant disposées les unes à côté des autres avec une passerelle qui permet d'accéder au top de chaque cuve. Et avec un système de pompage, avec des pompes, on transfère du carburant de ce dépôt mensuel vers le dépôt journalier qui se trouve dans la centrale. Et ce dépôt mensuel, il est lui-même avitaillé à partir du dépôt annuel qui se trouve beaucoup plus bas sur la base, à proximité de la base du Lion. Donc, c'est là que le navire peut accoster pendant la campagne d'été. Et en fait, pourquoi on jongle avec tous ces dépôts? Pour faire face en cas de grosses intempéries. Il faut savoir aussi que le carburant qu'on utilise sur les centrales est chargé d'un additif anti-gel. Si on avait un gasoil lambda comme celui qu'on prend à la station du coin, il gèlerait dans les conditions de grand froid. Et puis après, le grand jeu technique de la base, c'est de toujours maintenir tous nos réseaux hors gel. Donc ça, c'est vraiment le gros challenge de l'équipe technique, principalement des dieselistes et du plombier. c'est de faire en sorte qu'il n'y ait jamais une canalisation en gel. Parce qu'on a plein de réseaux, du coup, d'un bâtiment à l'autre. Il y a le réseau d'eau douce, mais il y a le réseau des eaux usées. Il y a le réseau d'eau de mer parce qu'il y a plusieurs bâtiments qui sont avitaillés en eau de mer. Et donc, à chaque fois, c'est ce système de canalisation un peu à double pot où on fait circuler un fluide chaud à contre-courant avec le fluide principal pour préserver ce fluide principal du gel. Donc voilà, c'est toute une logique pour lutter contre le gel parce que c'est vraiment ça le risque majeur de la base. Encore une fois, c'est le gel d'une canalisation et après, c'est la brise là.
février 2009. Tout se passe pour le mieux. Le travail, globalement, m'intéresse. J'apprends beaucoup de choses, surtout la bricole, plein de petites choses pratiques. Dans l'ensemble, j'ai d'assez bons rapports avec mon chef, du genre impulsif et pas toujours patient, mais décidé à faire de moi un mécano. Il a pris mon éducation en main. Je crois qu'il m'accorde une confiance respectable, malgré ma jeune expérience. Disons que je me sens de la partie, j'ai mon rôle à jouer.
Le travail à la centrale, il est organisé à la journée. On devait faire 8h, midi, midi et demi, 14h, 18h, des journées de travail assez classiques. La centrale n'est pas AUT comme les navires, elle n'est pas automatisée, donc elle nécessite une présence humaine permanente. Mais cette présence, elle était assurée par toute l'équipe technique. Donc nous, on travaille à la journée à la centrale du lundi au samedi. En général, on relâche le dimanche. En revanche, toute l'équipe technique assure un quart, une veille la nuit à tour de rôle. Donc à partir de 18h, quand les mécaniciens, donc le chef et le second, quittent leur poste, il y a un des membres de l'équipe technique qui vient faire de la veille. Veiller les installations, faire des relevés, donc surveiller les paramètres chaque heure de la nuit. Et en cas de souci, réveiller un mécanicien pour intervenir. Et donc on était 8 dans l'équipe technique, donc une nuit sur 8. On était de quart central. On passait la nuit à la centrale en veille. Et le lendemain de ce quart central, on a une journée off pour récupérer. Moi, je dormais beaucoup. C'est impressionnant ce que j'ai eu besoin de dormir pendant l'hivernage, vraiment au cœur de l'hiver, quoi. Quand il faisait beaucoup nuit et beaucoup froid. On sent quand même qu'il y a un épuisement de l'organisme, je pense, par manque de lumière et de vitamines. Il y a un truc. Le corps se met un peu en hibernation, je pense, d'une certaine manière, oui.
Ça souffle le vent ici, hein. Et en hiver, ça descend jusqu'à pratiquement moins 90 degrés. Quand on crache en l'air, la salive, elle gèle et elle dégringole comme ça, comme la neige. J'ai horreur du froid, j'ai horreur de la neige, j'ai horreur de la glace, j'ai horreur du vent. Et j'ai vécu 50 ans de ma vie comme ça. Faut être dingue, non?
Dumont-Durville, c'est une base qui est construite sur une île, l'île des Pétrels. L'île des Pétrels, elle fait partie d'un archipel qui s'appelle l'archipel de Pointe-Géologie. Et tout ça, c'est très près du continent. Mais c'est pas sur le continent antarctique, c'est vraiment c'est à la côte, quoi. C'est comme si on hivernait à Bria devant Paimpol, quoi, en gros. Dumont-Durville, c'est juste au-dessus du cercle polaire, donc la nuit polaire, par définition, n'existe pas. C'est-à-dire que même au solstice d'hiver, le 21 juin, le soleil apparaît à Dumont-Durville. Mais sa course est courte. Donc au solstice, le 21 juin, la course du soleil, c'est 3 quarts d'heure, 45 minutes. C'est-à-dire qu'il va dépasser l'horizon sur une courbe très, 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 très aplatie. On va le voir apparaître et 45 minutes, il disparaîtra. Donc, on a quand même un climat qui ressemble à une nuit polaire, quoi. Enfin, en termes de luminosité, on est pas loin de la nuit polaire. Mais il y a toujours un moment dans la journée, même au cœur de l'hiver, où il y aura une espèce de lueur qui se fera sentir. Il y a des ciels étoilés de dingue puisqu'il n'y a aucune pollution lumineuse. Il y a les aurores aussi, des ciels magnifiques. Ouais, c'est très beau. intéressant du monde du riz, c'est qu'il y a une vraie faune, contrairement aux bases qui sont vraiment installées au cœur du continent où là, la faune est quasi inexistante. Là, du monde du riz, il y a une faune très présente, une faune marine, et il y a beaucoup d'oiseaux, des oiseaux qui volent et des oiseaux qui volent moins. Ceux-là, on les appelle les manchots. Les manchots, il y en a plusieurs qui sont représentés à Dumont-Durville, notamment pourquoi Dumont-Durville a été construit ici, principalement parce que c'est le site d'une des plus grandes manchotières antarctiques, des manchots empereurs. Les manchots empereurs, les manchots à débit, autant les manchots empereurs, eux, ils vivent sur la banquise, donc ils sont absents l'été et ils s'installent sur la banquise à proximité de la base l'hiver. Autant les manchots à débit, eux, ils vivent sur l'île. Et alors là, c'est très drôle parce qu'ils vivent partout sur l'île, y compris sous les bâtiments, quasiment sur les passerelles. Enfin, ils sont sous ta fenêtre, quoi. Et parfois même, ils t'empêchent de t'endormir tellement ça caille. Et puis, énormément d'oiseaux, les squales, les pétrels, toutes sortes de pétrels. Pétrels des neiges, pétrels des Wilson, grands pétrels. Et des phoques, plein de phoques. Et puis, ce qui est génial en passant un an là-bas, c'est qu'on assiste vraiment à tout le cycle reproductif de ces espèces, quoi. On les voit s'accoupler, on les voit pondre, on voit les œufs éclore, on voit les petits bouts en duvet se faire donner la béquille par les parents, et puis après on les voit grandir, aller à l'eau pour la première fois, perdre leur duvet, devenir des ados et prendre leur envol. Enfin non, parce qu'ils ne voient pas, mais ils prennent leur envol quand même. Et puis il y a les scènes moins drôles où on voit les squats bouffer les petits. C'est la nature, quoi. L'archipel de points de géologie, il se trouve vraiment tout proche du continent. Et à cet endroit-là du continent, il y a un glacier qui se jette à l'eau, le glacier de l'Astrolabe. Et les glaciers sont des masses de glace qui arrivent du continent et qui se jettent dans la mer. Et qui donc lâchent en permanence des icebergs. On appelle ça le vélage du glacier, quoi. Le glacier, il vèle des bergs comme une vache vèle des veaux. C'est ça l'idée. Là où ça casse, ça fait vraiment des... Je ne sais pas, ça me fait penser à une grosse pâtisserie enrobée de crème pâtissière ou de chantilly. Là, les bords bien tranchants. Et ben, ça ressemble un peu à ça, la lisière du continent aux abords de l'archipel. Ça fait une espèce de petite casquette de neige et puis une paroi bien, bien franche, bien droite. Et c'est hyper joli, moi ça me fait vraiment penser à une grosse pâtisserie. Et après la banquise, en fonction des intempéries, du vent qui souffle et tout, ça forme un relief très, très joli, un peu comme sur la plage quand le vent souffle. Mais ça fait vraiment exactement la même chose quand il y a une tempête de sable sur la plage. On appelle ça les sastrugies. Ça fait des petites crêtes parallèles les unes aux autres, quoi. Ça fait un dessin de stries sur la glace, sur la banquise. Et ça, c'est hyper joli parce que quand le soleil et la lumière est très rasante l'hiver, donc ça donne vraiment des ombres très jolies, des fastugies sur la banquise. Ça, c'est magnifique. Et les couleurs l'hiver, pour moi, dans mon souvenir, c'est vraiment une palette de rose, violet, ces couleurs très douces, très pastel de l'hiver, quoi. Rose pâle, violet, lavande.
Jeudi 9 avril 2009. La banquise est ouverte, c'est officiel! Bien sûr, il s'agit d'une ouverture partielle, un périmètre dont les contours ont été déterminés en fonction des forages et de l'aspect de la glace. Néanmoins, c'est déjà un beau terrain de jeu que nous offre Dame Nature depuis 2 jours. Imagine ton espace de liberté décuplé sur ces simples mots. La banquise est ouverte. Lâche des lions en cage et tu seras pas loin de la vérité. Descendre de notre caillou, s'éloigner de la base et fouler la neige vierge à perte de vue, déambuler dans un chaos de glace. Et puis les approcher, enfin, les observer dans leur plus profonde intimité, celle de la manchotière. Les empereurs sont au rendez-vous comme chaque année à l'heure de la grande migration. On les compte déjà par centaines et bientôt par milliers. Aucun doute, un spectacle qui te colle aux rétines pour l'éternité.
Sur les 26 ou 27 hivernants, donc il y a le chef de district. Là, on était sur le district de Dumont-Durville. C'est un des districts des Terres australes et antarctiques françaises. Et sur chaque district, il y a un chef de district qui est recruté par l'État, par cette préfecture d'État. et qui se veut un peu le chef de base et le représentant de l'autorité nationale sur le territoire, quoi. En gros, il endosse un petit peu toutes les casquettes d'un territoire français qui sont pas présentes en Antarctique. Il peut marier, il peut te mettre en prison, il peut faire un peu tous ces trucs-là. Ensuite, il y a un médecin, un gérant postal. Alors ça, c'est une grande tradition sur les bases antarctiques, notamment pour assurer le business de la philatélie qui rapporte pas mal d'argent aux terres australes et antarctiques françaises. Il y avait un radio, donc lui qui est responsable de tout ce qui est communication sur place. Ensuite, associé à l'équipe technique, il y a le cuisinier et le pâtissier. Et puis après, c'est toute l'équipe scientifique. Dans l'équipe scientifique, il y a, sur cette base en l'occurrence, il y a donc les disciplines qui sont représentées, c'est la sismologie et le magnétisme, donc c'est les gars qu'on appelle les sismomagnes. Il y a les piaphologues, donc tout ce qui est ornithologie. Cette année-là, il y avait un programme sur les ressources halieutiques, donc la pêcheuse, plutôt poisson sous la glace. La glaciologie et la chimie de l'atmosphère, etc. Il y avait le programme LIDAR. Le programme LIDAR, c'est un programme qui s'intéresse à la couche d'ozone, avec une espèce de machine qui émet un grand rayon vert pour mesurer l'épaisseur de la couche d'ozone. Et puis il y a Météo France qui a été richement représentée avec trois staffs Météo France, un ingénieur et deux techniciens. La moyenne d'âge est assez jeune. Donc, c'est assez, ça peut être assez festif, ça peut être assez dynamique. Ça peut parfois ressembler à une grosse colonie de vacances. Et c'est chouette, on s'amuse. Il y a eu un festival de cinéma. Il y a eu des soirées cabaret. On passait à table en regardant des spectacles. Il y a eu plein de choses. Comme la station est très vieille, on avait dans la salle vidéo, il y avait l'historique de tous les formats vidéo disponibles depuis 60 ans, quoi. Donc on avait du 16 mm, de la cassette vidéo et du DVD et du numérique, quoi, du format vidéo informatique. Et il y avait un hivernant qui aimait beaucoup tout ce qui était un peu vintage et qui s'est lancé sur le 16 mm à faire fonctionner le projecteur et tout. Donc des fois on se faisait des dîners en regardant des vidéos sur 16 mm, mais c'était des bobines qui dataient quasiment des EPF, quoi, de l'époque de Paul-Émile Victor ou pas loin. Et donc, il y avait des films d'époque assez incroyables sur les XP ou en noir et blanc sur le 16 mm. C'était cool. Je garde un souvenir agréable, c'est ma correspondance avec certains de mes proches. Et j'ai vraiment énormément écrit cet hiver-là. Notamment à ma sœur Kako. J'ai pu passer des heures à écrire des mails pour Kako. Du coup, c'est pas juste donner des news, c'est vraiment exprimer ce que tu as tout au fond de toi, ce que tu vis. Et ça, c'était super. C'était vraiment super. Et aussi de recevoir ces mails. Et nos mails étaient limités à 32 kilos. Donc, autant me dire qu'on ne recevait pas des photos de la famille en pagaille, on ne pouvait pas. Pas accès à la toile, on n'avait pas accès aux internets, mais vraiment juste à cette messagerie. Mais c'était déjà génial.
Dimanche 1er mars, 23h30. Et bien voilà, ça c'est fait, l'hivernage a bel et bien débuté. Vendredi, 15h, nous perdons de vue l'Astrolabe en route plein nord pour Hobart. Prochaine visite, dans 8 mois, quasi jour pour jour. Ce départ est lourd de sens. Il marque bien sûr la fin d'un superbe été austral, riche en découvertes, plein de rencontres et de souvenirs impérissables. Mais surtout, il impose les règles d'un nouveau jeu, celui de l'hivernage. Le départ d'R4 est un moment très émouvant. Il marque d'une part le début de l'hivernage, le vrai, mais surtout, il impose des séparations difficiles, quasi douloureuses. Une telle promiscuité favorise les relations fortes. On se lie et on s'attache très vite aux gens qui nous entourent. Ce départ m'a semblé interminable, des heures interminables que nous avons passées à nous observer, les uns sur leurs cailloux, les autres sur leurs bateaux. Une scène indescriptible. Bien sûr, tout était prévu pour rendre le moment joyeux. Des casseroles et des louches en guise de percussion, des banderoles ironiques, des messages tracés à même la neige au cubit de vin rouge. Et pour finir en apothéose, lancer de feux de détresse dans le ciel couvert de ce jour inoubliable. Épilogue d'une aventure. Préface de la suivante.
13 mars 2009. Sinon, j'étais à Trevi City hier pour un petit dîner d'anniversaire en famille. Et encore une grosse pensée pour toi. Je n'ai pas pu résister, j'ai montré la photo à tout le monde. Ils ont trouvé ça vraiment génial. Du coup, Mamoun a compris que nous avions une correspondance clandestine, toi et moi. J'adore quand elle réagit avec sa petite jalousie d'ado. Elle te soupçonne d'avoir eu un coup de cœur pour l'un des estivants. Sinon, pourquoi les au revoir auraient-ils été si poignants? Bien sûr, je n'ai pas craché le morceau.
Mais là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pu terminer l'hivernage par quelque chose d'assez extraordinaire. Je n'ai pas quitté la base pour rentrer tout de suite. J'ai quitté la base pour participer au raid terrestre qui ravitaille la base de Concordia. J'ai eu cette possibilité de participer au raid en tant que conductrice d'engin. Et donc, j'ai pu conduire un tracteur pendant des jours et des jours pour aller ravitailler la base de Concordia, donc qui est la base franco-italienne qui se trouve au cœur du continent antarctique, à 1100 ou 1200 km de Dumont-Durville à peu près, quasiment plein sud. Et donc, le concept de ce raid, c'est d'avitailler Concordia par un convoi terrestre, sauf que Concordia, c'est construit en altitude. Il faut savoir que l'Antarctique, c'est un continent très haut, c'est un haut plateau. Et donc, ce raid doit évoluer sur un terrain un peu scabreux, le continent antarctique, qui est une grosse calotte de glace, avec des charges monumentales, notamment tout l'avitaillement en carburant pour la base de Concordia, les matériaux divers et variés dont on peut avoir besoin sur la base, les équipements techniques, scientifiques, tout ça monté sur des skis, des patins avec des revêtements en téflon, attelés à des tracteurs agricoles customisés grand froid. Et voilà, on avance Guingamp, on roule jusqu'à Concordia, on roule toute la journée, on s'arrête la nuit pour dormir. C'est toute une logistique assez dingue. Et surtout, on roule seul dans nos tracteurs. On est un chauffeur par tracteur. Toute la journée, on roule 12 heures par jour en convoi dans un paysage totalement lunaire. C'est la calotte glaciaire, il n'y a rien d'autre que de la glace, du blanc, des sastrugis à perte de vue. Et il n'y a même pas de congère, puisque comme il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien qui altère le relief. C'est une étendue de glace relativement plane, juste altérée par les descentes du vent sur la glace. Et c'est dingue, c'est complètement lunaire.
L'aventure, ça n'existe plus, hein? Eh bien, moi, je dis que si. C'est simplement un changement de rythme, un changement de ton. L'aventure, ça existe toujours. L'aventure, c'est partir à la découverte de quelque chose, et pas forcément une découverte géographique de pays non connus. Il n'y en a plus de ces pays-là. Non, l'aventure, elle est dans le cœur de l'homme. Elle est tout aussi excitante qu'elle l'était il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans, quand moi j'avais 30 ans. Elle est simplement différente. Elle est ce que l'homme peut trouver de mieux pour vivre, mais l'aventure, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui doit être enrichissant pour soi, utile pour les autres, et qui comporte néanmoins une petite part de risque. Et si on arrive à réunir tout cela, alors on ne meurt pas. Les vieux aventuriers ne meurent pas, ils disparaissent. Ils s'évanouissent.
De ce raid, c'était la rotation retour pour moi, donc j'ai embarqué sur l'Astrolabe avec un gros sac à dos, direction au bar de Tasmanie, où ma sœur m'attendait sur le quai, et voilà, c'était la fin de l'aventure en partie. J'étais surexcitée à l'idée de naviguer, et je me disais, oh là 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 là, il faut absolument que je squatte tous les quarts, que je sois hyper présente à la passerelle pour me remettre dans le bain. Et il faut que je regarde bien comment ça se passe, la navigation dans les glaces. Et je m'étais un peu lié d'amitié, c'est exagéré, mais j'avais bien sympathisé avec le capitaine de l'Astrolabe, là, et du coup, qui m'avait laissé un peu du quart, voilà, pour que je me remette dans le bain, c'était super chouette. Non, je suis rentrée avec une grande impatience à renaviguer, parce que quand même, mine de rien, le revers de la médaille, c'est que j'avais quand même pas navigué pendant un temps, quoi. Je suis en mer, je sens des choses très fortes, quoi. J'ai tellement l'impression d'être à ma place. Et je crois qu'être en mer, ça me procure beaucoup d'apaisement par la fuite du monde, en fait. Il y a une espèce de... Je me sens protégée quand je suis en mer, parce que isolée de tout ce qui est décevant dans le monde qu'on habite. Ça met de la distance entre ce que j'aime pas dans notre monde et moi, quoi. Il y a un côté protecteur, je trouve. Je me sens protégée quand je suis en mer.
Depuis son expérience en Antarctique, Charlène n'a cessé de naviguer sur des navires atypiques. Elle est embarquée tour à tour comme second capitaine sur une réplique d'un drakkar viking du 8e siècle, puis sur l'Hermione, la réplique du navire de guerre du marquis de Lafayette. Elle traverse l'Atlantique comme capitaine sur le Rara Avis de l'association du Père Jaouen. Elle alterne actuellement comme chef mécanicienne entre un navire océanographique et un navire de croisière polaire. Retrouvez le portrait de Charlène sur le site du podcast womenoftheseas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une jeune femme, prisonnière volontaire des glaces, lors de la dérive polaire de la Goélette Tara au pôle Nord.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.